السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Moana Salim exagère un peu dans les termes en disant que je vais donner des conseils. Les conseils, on les prend auprès des âgés, auprès des personnes qui ont la sagesse, qui ont eu au moins la quarantaine, l'âge de la hikma. Nous ne faisons que relater quelques textes prophétiques, quelques versets du Coran à l'attention de proches, de frères en islam qui se marient. Et pour moi ce soir, c'est un moment symbolique. C'est plus qu'un nikah, c'est le mariage d'un de mes élèves. Imran qui se marie ce soir était un de nos élèves à la madrasa avec qui, mashallah, on a eu d'excellentes relations. Et je peux dire, je peux affirmer clairement que cette fille qui se marie ce soir, elle a eu un bon garçon, mashallah. Pour revenir à l'historique de ce mariage, je m'entretenais avec Imran avant-hier, ou même c'était hier plutôt. Il me disait que son tartit, son intention, lorsqu'il allait se marier avec cette personne, cette jeune demoiselle, c'était que Moana Marhum, Moana Mansour, célèbre le nikah, et que Hafez Marhum également Ousmane Kadji de Saint-Denis fasse le doua du nikah. Ça aurait été vraiment une composition qui contenterait son cœur, parce que c'est son professeur, son autre professeur qui aurait fait le doua de clôture, et par rapport à sa future épouse, ça aurait été un proche. Mais voyez la décision d'Allah Azza wa Jal, voyez le taqdir. L'être humain aimerait que les choses se passent d'une façon, et là c'est pour une action vertueuse, sans le moindre doute. Mais en finalité, c'est la décision d'Allah Rabbul Izza qui prévaut. Et c'est là le taqdir. Et le mu'min se doit d'accepter les décisions d'Allah Azza wa Jal. Autant les gens de Saint-Pierre qui avaient côtoyé, et on va dire tout le monde avait côtoyé, Marhum Moana Mansour, ne trouvent toujours pas de mots pour exprimer leur peine, ou n'arrivent toujours pas à réaliser ce qui se passe vraiment. Autant les personnes de Saint-Denis, et principalement ceux qui étaient du quartier de Montreuil, et du quartier du Moufia, ceux qui ont vécu, ceux qui ont côtoyé, ceux qui ont travaillé avec Marhum Hafez Uthman Kadji, ne trouvent toujours pas de mots après tant d'années pour exprimer leur peine. Et il y a des fois où on se demande, est-ce qu'il ne va pas revenir? Tout comme je suis certain parmi vous, en arrivant à la masjid, je me suis dit, il faut que j'appelle Moana pour... Il a le bip, il va m'ouvrir le portail parce qu'il n'y avait pas de place pour se garer. Mais c'est ajib. L'objectif, c'est quand on manifeste sa peine. Mais l'objectif, c'est de faire doua pour ces gens. Et ce soir, on aura une pensée spéciale pour ces deux personnes qui étaient des gens bien. C'était vraiment des gens exceptionnels. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, mu'ajiza, ce qu'il avait annoncé qu'à la fin des temps, ben, les meilleures personnes vont quitter ce dunya. Les meilleurs parmi les meilleurs vont quitter les premiers ce dunya. C'est vraiment là la concrétisation de ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, avait annoncé. On retourne vers un discours un peu plus joyeux, excusez-moi. Nous sommes donc réunis ce soir pour célébrer un nikah, un événement qui remplit les cœurs de joie, un événement qui va unir deux cœurs qui sont amoureux, qui s'aiment, en ayant un entretien, le dernier entretien avec Imran hier. Je lui ai demandé, est-ce que tu aimes vraiment cette fille? Est-ce que tu es sûr? Pour voir ce qu'on maintient. Il m'a dit, je l'aime de tout mon cœur. Donc, alhamdoulilah, le mariage va consacrer l'union de deux personnes qui s'aiment de tout leur cœur, mashallah. Et ce nikah va également les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Imran m'a dit qu'on a la possibilité ce soir exceptionnellement de faire un programme d'1h30. Donc c'est quelque chose qui remplit nos cœurs également de joie. Ah non, c'était 30 minutes. D'accord. Frère, Inch'Allah. Chers frères en islam, lorsque nous voyons un jeune homme de 23 ans et une jeune fille d'à peu près le même âge qui se marie, c'est jeune 23 ans de nos jours. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, peut-être plutôt de nos grands-parents, lorsqu'on disait que 23 ans, 22 ans, ben c'est l'âge déjà de se marier. On se mariait plutôt à 19, 20 ans. À notre époque, 22 ans, 23 ans, faites le tour des lieux de culte, je veux dire d'autres religions. Faites le tour des autres communautés, cherchez des gens qui se marient officiellement de les lieux de culte à 22, 23 ans. Wallahi, vous n'en trouvez pas. Déjà, le mariage religieux lui-même n'a quasiment plus d'importance, parce qu'avec le monde dans lequel nous vivons, avec l'évolution, si on peut appeler ça une évolution des mentalités, on n'a plus cette conception de halal et de haram, de les relations entre l'homme et la femme. Ce qui veut dire que lorsqu'on va dire à une personne, attention, cher ami, si quelqu'un qui n'est pas musulman, tu ne peux pas fréquenter cette fille, tu vas accomplir l'adultère, ou alors au moins c'est de la fornication. va vous dire, tu me parles de quoi là? C'est quoi ce langage archaïque? Adultère, fornication, c'est du vieux français. Je sors avec elle ou alors c'est ma concubine. Ce sont les termes modernes qui ont pris la place de ces deux termes qui qualifient des péchés extrêmement graves, péchés pour lesquels la foi, le iman, quitte le cœur de la personne. Mais Wallahu musta'an, chose annoncée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à la fin des temps, ce péché va se généraliser. Et c'est là également un mu'ajiza, c'est quelque chose que nous constatons. C'est devenu quelque chose de courant. Et je ne parle pas des autres communautés, dans notre communauté. Combien de jeunes ne voient plus la moindre contre-indication religieuse ou spirituelle, le fait de rester avec une personne pendant un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, et on dit qu'on a besoin de se connaître avant le mariage. Allah musta'an. Mais lorsque nous voyons donc deux jeunes de 22, 23 ans qui se marient, on se dit qu'alhamdulillah, cette umma, elle est présente. C'est la seule umma qui répond encore présent dans ce amal, dans cette action qui est énorme, qui est magnifique, cette action qui complète la moitié de la foi, qui est le nikah. Alors, très rapidement, on va donner une petite explication de quelques minutes sur le partage entre la pratique de la religion et l'amour. C'est un thème qu'on avait, bi'idhnillah, abordé un petit peu durant le mois de Ramadan. Et on va terminer avec 9 nasihat, 9 conseils. Et on va tenir, inshallah, dans le temps que le marié nous a proposé, pour qu'il puisse, inshallah, réellement se marier. Mais ce sont des conseils très importants qui doivent normalement être développés beaucoup plus que ce qu'on va faire. Mais c'est des idées, c'est des thématiques à garder à l'esprit. Tout d'abord, quand on parle de relations durables de le mariage, il faut savoir que le mariage se repose sur deux piliers. Sur l'amour, bien sûr, sans le moindre doute, mais également sur la pratique de la religion. Un couple dans lequel on a tous les moyens financiers, mais dans ce couple, il n'y a pas de crainte d'Allah, il n'y a pas de pratique de la religion, il n'y a pas de frontière entre le licite et l'illicite, il n'y a pas la conception du haram, il n'y a pas la recherche permanente du contentement d'Allah Azza wa Jal. C'est un couple dans lequel il n'y aura pas de baraka, il n'y aura pas de bénédiction. Même si d'apparence, ces personnes possèdent tout ce qu'ils veulent, ils ont l'air d'être extrêmement à l'aise financièrement, il n'y aura pas la sakina, il n'y aura pas la tama'nina, parce qu'il n'y aura pas la baraka, il n'y aura pas la quiétude, il n'y a pas la tranquillité du cœur. Ça c'est ilmul yaqin, c'est une conviction. De l'autre façon également, c'est là que nous voyons le juste milieu de l'islam, un couple qui s'efforce, mashallah, d'avancer dans la religion, dans les pratiques obligatoires, dans les pratiques nafil, mashallah, alhamdulillah, ils font des efforts, mais il n'y a pas de manifestation d'amour entre l'homme et la femme. L'homme ne porte pas de regard amoureux sur son épouse et vice-versa. C'est un couple qui n'avancera pas réellement non plus, et c'est un couple qui ne respecte pas le mode de vie du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam dans ses relations avec ses épouses. Vous connaissez l'histoire de l'immigration. Lorsqu'un sahaba était auprès de Abu Darda radiallahu anhu dans sa maison à Madina, il côtoyait Abu Darda et il voyait que l'épouse d'Abu Darda radiallahu anhuma ne donnait quasiment aucune importance à son apparence physique. Il trouva ça un peu étrange. Il posa la question à l'épouse d'Abu Darda et elle répondit que mon mari, qui était un des éminents sahaba, un des plus grands sahaba, mon mari passe tellement de temps dans les adorations, dans les jeûnes nafils, dans les salats de Qiyamul Layl, dans les tahajjud, qu'en finalité, il ne trouve plus de temps pour moi. Mais il a développé sa relation avec Allah. Ce sahaba a donné ce conseil extraordinaire à Abu Darda, radiallahu anhu, qui a été repris dans d'autres récits et qu'on peut fusionner dans cette phrase magnifique sur le hadith, de lequel il est dit, n'oublie jamais, wa inna li nafsika alayka haqqa. Ton corps a un droit sur toi. Ton épouse, ta famille a un droit sur toi. Et avant ça, elle avait cité ton Rabb, ton Dieu a un droit sur toi. Ça, c'est la relation du croyant. Mais n'oublie pas que tu as un corps et tu dois le respecter. N'oublie pas que tu as une femme. Tu dois lui donner le temps qu'elle mérite. Tu as des enfants, tu as une famille. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Donne à chacun le droit qu'il mérite. Et là, on voit le juste milieu de le din. Et ce hadith peut résumer ce qu'on a expliqué, que le nikah, l'amour, pour que l'amour perdure dans le couple, il faut la pratique de la religion, parce que la pratique du din, c'est ce qui sera la source de la baraka et du contentement d'Allah. Et quand la rahma d'Allah descend dans une maison, les shayatines ne peuvent pas trouver place. On a le choix, soit on désobéit délibérément à notre Seigneur, et les chayatines applaudissent des deux mains et des pieds peut-être, et ils viennent, ils s'installent, ils tissent leur toile, ils vont porter confusion dans la relation de couple, et ce sera des problèmes jour après jour. Maintenant, si c'est un couple qui pratique le din d'Allah, il y aura la sakina, la tranquillité du cœur, la rahmat d'Allah qui va descendre, et inshallah, shaitan n'aura pas d'emprise sur ce couple. Faites le niya déjà, Imran et ton épouse, que vous allez avancer ensemble de la religion, vous allez apprendre. Ce qui est extrêmement important, c'est comme on a fait une mini-formation hier à la madrasa pour voir les bases du mariage, il faut continuer à apprendre. Apprendre c'est quoi le respect mutuel entre l'homme et la femme, mais apprendre la religion d'une manière générale. C'est-à-dire que le mu'min, surtout de l'époque dans laquelle nous vivons avec les fitnas, avec les péchés, avec les sources de tentation, mais également tout ce qui nous éloigne de la réalité de la religion avec toute cette désinformation qu'il y a autour de nous, le croyant, la croyante a besoin de se ressourcer. Si on ne se ressource pas, je vous assure que jour après jour, on ne se rend pas compte, même si le nombre de namaz ne diminue pas, mais notre iman diminue. D'où l'importance d'apprendre le ilm, la connaissance religieuse, ensemble. L'homme doit apprendre auprès d'un alim, l'épouse auprès d'une apa ou d'un alima, comme on l'appelle, mais les deux doivent apprendre de façon permanente. On a besoin également de définir qu'est-ce que l'amour dans notre dîn. Si on analyse le terme amour par rapport à notre société, très souvent, une relation amoureuse, ça commence par un coup de foudre, une séduction, une approche, on sort ensemble, et puis maintenant, en fonction des affinités, on peut décider de vivre quelques années ensemble, ce sera du concubinage, ou si on veut que ça devienne plus sérieux, ce sera un mariage. Mais ça restera quelque chose qui est basé sur la contemplation, sur la beauté physique et sur les intérêts. L'intérêt que l'homme peut apporter à la femme et vice-versa. Rarement nous trouverons la rahma, la rahma et la mawadda de le couple, chose qui est importante dans l'islam. Et parfois, lorsque les années passent et que les problèmes cumulent et que les signes de beauté sont en train de disparaître, ben l'homme et la femme ne se plaisent plus. Et à un moment donné, l'un des deux va dire « finish him » et il va casser et le couple s'arrêtera là après 2 années, 5 années, 10 années, peut-être même 20 ans. On a même vu des couples qui, wallahu musta'an, qui s'arrêtent au bout de 40 ans. C'est dramatique. Alors que si on revient vers la définition de l'amour dans notre religion, on a parfois l'impression que dans la religion, il n'y a que des ordres et des interdits, il n'y a pas de romantisme. Vous voulez du romantisme? Le romantisme, c'est quand le prophète alayhi salatu wa salam est à table avec Aisha radiallahu anha, et que lorsqu'ils sont en train de manger ensemble, parce que parenthèse, le prophète mangeait avec sa femme, alors que nous, parfois, quand on sort du travail, on prend un sandwich, on va manger avec des amis, ou la madame a déjà mangé avec les enfants, et que nous, on arrive plus tard, on est fatigué, on ne veut pas voir personne. Dit, la journée était assez difficile, je ne veux pas entendre les enfants, ce qui veut dire je n'ai pas trop envie de t'entendre, toi non plus. Donc on décide de dîner tranquille, seul devant la télé, devant, comment on appelle ça, j'oublie le nom de série parce que je ne les regarde pas, devant telle série qu'on aime bien, il y a un seul que je regarde, le pâtissier de la semaine, et on est enjoy, en mode enjoy, et il n'y a pas de bruit. Le prophète alayhi salatu wa salam, fait un petit peu de la parenthèse, mangeait avec son épouse. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il mange avec sa femme, il prenait une bouchée de nourriture, il mettait dans la bouche de son épouse Aïcha radiallahu anha. Vous cherchez du romantisme. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam quittait sa maison pour aller prier à la masjid Nabawi, et pourtant c'est pas une longue distance, c'est pas comme si je quitte un quartier pour aller vers un autre quartier, ou d'une ville à l'autre je vais rentrer peut-être ce soir ou demain, c'est le prophète habitait dans la masjid, c'est une question de rideau. Lorsqu'il quittait sa chambre, ce hujra, pour aller prier, c'est comme si que vous êtes à la petite salle où on fait un tikaf, vous venez, il embrassait à chaque fois Aïcha radiallahu anha. Et lorsqu'il revenait, il faisait le miswak, le siwak, et il embrassait encore son épouse lorsqu'il l'a retrouvée. Est-ce que c'était une longue séparation? Est-ce qu'il revenait de voyage de 40, 50 jours? Non, c'était l'espace d'une prière. Ça, c'était l'amour de le couple de la prophète alayhi salatu wassalam. On n'a même pas besoin de détailler la présence de religion dans le couple prophétique. Il n'y a même pas besoin de le dire, ça. Mais la présence d'amour, de relations humaines, c'était quelque chose d'omniprésent. Et c'est ça le modèle prophétique. Autant on considère le modèle prophétique dans la manière parfois de s'habiller, dans la manière de se comporter avec le voisin, dans le travail, dans la manière de manger. Il a réalisé Zalik. Nous devons donner l'attention à tout ça. Il n'y a aucun détail de la religion, mais nous ne devons pas baisser les yeux, baisser le regard de la rue, oui, mais pas baisser les yeux quand il s'agit des relations de couple et se dire que ben je mène mon couple à ma façon. Il n'y a rien qu'on puisse faire à notre façon. Tout doit être fait à la façon du modèle prophétique, à la façon de le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce qui est magnifique avec la définition d'amour de l'islam, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wa salam décrit l'amour qu'un homme porte à son épouse, hadith rapporté par Imam Muslim, in nazara ilayha sarratuhu. Lorsque l'homme regarde son épouse, son cœur est rempli de joie. Et en commentaire, les muhadithines disent, c'est qu'il est satisfait de sa femme. Que ce soit la nuit de noces, ou après 10 ans de mariage, ou après 40 ans de mariage. Si après 40 ans, il n'y a plus autant de paillettes, il y a plus de rides que de paillettes. Malgré cela, parce qu'on a construit une histoire ensemble. On a élevé des enfants ensemble. On a passé des moments difficiles ensemble. On a survécu. On est toujours là. On s'aime. On a toujours du respect mutuel. L'homme regarde son épouse. Son cœur est rempli de joie parce qu'il sait que ça, c'est ma moitié. C'est elle que j'aime plus au monde de ce dunya. Ça, c'est un couple qui a abouti. Et la consécration, Allah, Allah, Allahumma ja'alna minhum, c'est lorsque le couple se retrouve ensemble dans le paradis. Pour moi, c'est le plus beau verset concernant la récompense des familles qui étaient dans la religion d'Allah, qui ont pratiqué Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants. On parle de deux générations. Les ascendants, qui ne rêve pas de retrouver son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère dans le Jannah avec lui? Et qui ne rêve pas de retrouver son fils, sa fille, ses petits-enfants avec lui dans le Jannah? Ce qui serait la preuve qu'ils ont réussi leur passage de ce dunya, qu'ils ont été agréés par Allah et qu'ils ont concrétisé le but pour lequel Allah les a créés pour faire illa liya'budun, pour faire son adoration. Et qui ne rêve pas également, wa azwajihim, c'est le deuxième terme, de se retrouver dans le Jannah avec son épouse. Cela implique donc une pratique assidue de la religion, et cela veut dire également qu'on a, durant toute notre vie de couple, respecté notre épouse. Parce que je peux être un homme religieux, j'ai l'apparence, j'ai le kafni, le kandou, comme vous l'appelez, je porte une barbe qui est longue, parfois il y en a, parfois c'est plus grand, parfois c'est plus court, il y en a qui ont de grandes barbes, il y en a qui ont de moins longues, il y en a qui suivent la sunnah à la lettre, d'autres un peu moins. Je peux donner l'impression d'être un homme extrêmement pointilleux sur la chariat, religieux, baisse le regard à la rue, premier saf, et ainsi de suite, tous les sifats qu'on connaît. Mais dans ma vie de couple, je suis un goujat. Je n'ai aucune estime, aucun amour propre pour mon épouse. Vous croyez qu'Allah me laissera entrer dans le paradis, Biraïl-Hissab concernant le droit de cette femme que j'ai bafouée, que j'ai insultée, avec laquelle j'ai été ingrat, même si ma barbe elle est longue jusqu'à mes genoux, même si j'ai un tache de namaz qui fait mon visage en entier, si j'ai pas été respectueux envers mon épouse, j'ai manqué de respect envers une des créatures d'Allah, une créature qu'Allah m'a donnée pour faire ma vie. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, était dans sa maison lorsqu'il était amir. Si je me trompe pas, c'était quand il était amir. Les gens qui étaient venus le voir avaient entendu sa femme parler en levant un peu la voix. Ils étaient étonnés de voir que Umar ibn al-Khattab restait silencieux. Lui qui avait une force de caractère, on n'a pas besoin d'expliquer. Umar dit, je suis reconnaissant, n'est-ce pas elle qui entretient ma maison? N'est-ce pas elle qui cuisine quand je rentre, je peux manger un repas chaud? N'est-ce pas elle qui lave mes vêtements? Ne dois-je pas être reconnaissant? Est-ce que je ne dois pas passer sur certains écarts de comportement de mon épouse? C'est ce qu'on appelle faire des concessions. Et ça, c'est wallahi, c'est le terme sur lequel j'avais insisté. C'est le terme le plus important. L'amour de l'islam, c'est amour plus patience. C'est amour plus persévérance. C'est amour plus acceptation de l'autre. C'est amour plus respect. Mettez toujours un de ces adjectifs avec le mot amour additionné au mot amour. Et là, vous aurez vraiment le sens profond de l'amour en islam. On va aller un peu plus vite, Imran. À moins que... Ça va? Tranquille? Bien. Il a dit, il est tranquille, on est tous tranquilles. 9 nasihat, rapidement, on ne développe pas. Premièrement, dans une relation de couple, il faut faire en sorte que chacun trouve sa place. Que personne ne se sente à l'étroit. Le mari ne doit pas devenir envahissant. L'épouse ne doit pas devenir envahissante. Attention, il dit quand même. Le mari ne doit pas être un macho. C'est moi qui commande, à moi il porte la, yani on va être respectueux. À moi, il porte le longhi. C'est moi qui commande. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Battre la main sur la table. Quand on colle à volant, il vole ou quoi? Mais ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. C'est l'homme qui a le dessus. C'est l'homme qui dirige. Ok? Mais au nom de quoi? C'est par rapport au devoir qu'Allah t'a accordé, aux responsabilités qu'Allah t'a accordé. Un homme qui pense qu'il va mener son couple à la baguette, c'est un couple qui ne tiendra pas longtemps. L'homme ne doit pas non plus être soumis. Alors là, ce serait la pire des choses. Être extrêmement passif, tout à fait dit, ah, mais connais pas, madame, il décide. Alors, attention. La femme a quand même besoin de quelqu'un sur qui elle peut compter. Elle peut reposer. Donc il y a un juste milieu entre le fait de répondre présent et être ferme parfois, et le fait de savoir faire des concessions, de savoir rester silencieux parfois, de ne pas répondre lorsqu'il y a des conflits. Ce n'est pas là une preuve de faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Lorsque le prophète sallam voit son épouse jeter le plat de nourriture, on avait expliqué ça durant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment précis, il sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de sa femme Aïcha, donc le prophète sallallahu alayhi wasallam ne va pas répondre à ce moment, il va ramasser les miettes de nourriture et de l'assiette, et il attend que la colère de son épouse passe. Grande sagesse de notre prophète, Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, le même qui avait pris des décisions pour Badr, le même qui a pris des décisions magnifiques pour Uhud, pour Khandaq, pour Hunayn, il prend la décision comment réagir avec son épouse, et c'est lui le modèle prophétique. La femme de son côté ne doit pas être ultra-féministe, ni féminine non plus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Elle ne doit pas être ultra-féministe. Elle ne doit pas non plus manquer de caractère. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se trouver en face d'une femme qui dit oui pour toutes affaires, qui baisse la tête, qui n'a aucune opinion, qui n'a pas d'avis, avec qui il n'y a pas de discussion possible. Tout ce qu'on va dire, oui, c'est comme tu veux, Marie, c'est toi qui décides. Au début, on se dit que j'ai une perle, mais à un moment donné, on va se dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rouh, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas madja, dans un sens, d'accord? Donc, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut savoir que quand on a un mariage, ce sont deux personnes issues de deux familles différentes, donc de deux éducations différentes. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être d'un village ou d'un autre, d'un pays ou d'un autre. Il y a des fois où, dans la même ville, entre deux coins de rue, un c'est famille untel, un c'est famille untel, l'éducation n'est pas pareille. La conception des choses n'est pas pareille. L'approche des événements, l'approche des problèmes n'est pas la même. Donc, on doit être capable d'accepter l'autre avec ses différences. Et vice versa. De cette façon, Imran, tout ce que tu as eu comme enseignement de la part de tes parents, de ton papa et de ta maman, ce tarbiya, cette richesse que tu as, tu vas le partager avec ton épouse. Et elle, de son côté, ce qu'elle a eu avec son papa, c'est qui son papa? Mashallah. Tout ce que ton épouse a eu avec son papa, avec sa maman, c'est une richesse. C'est la richesse des familles. C'est la richesse des valeurs de chaque famille. Ben, vous allez fusionner ça ensemble. Il y a des gens qui se disent que oui, mais ne l'est pas pareil, ne nous accordera pas. C'est pas une question d'affrontement. Ok, mon épouse et moi, on voit pas les choses de la même façon. Mais voyez ça plutôt comme une richesse, plutôt qu'une source de conflit. Si on est intelligent, on arrive à concilier les intelligences, les acquis des deux familles pour produire quelque chose de magnifique. Et cela va, inshallah, par la suite rejaillir sur le tarbiyah, l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Le deuxième conseil, le deuxième point extrêmement important, on va essayer d'aller un peu plus vite, c'est lorsqu'il y a un petit souci, parce qu'il y aura des problèmes. S'il y a un couple de lequel il n'y a jamais de problème, ce sont des anges qui se sont mariés, et ce n'est pas possible. On n'a jamais célébré le nikah des malaïkas, les anges, les malaïkas ne se marient pas. Dans tous les couples, il y a des conflits. Le prophète sallam a eu des conflits avec son épouse, Ali, radiallahu anhu, il a réri dhalik, tous les sahaba ont connu des situations difficiles. Dans les situations difficiles, ce qui est la règle d'or, c'est jamais faire des critiques directes à sa femme. Autant parfois dans la relation de travail qu'on est patron, on peut se permettre de dire à notre employé, tu aurais dû faire ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, je t'ai donné telle consigne. Ça, ça marche au bureau. Ça marche dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Ça marche peut-être entre camarades qu'on est associé dans un projet. Mais quand il s'agit d'un homme et d'une femme, ça ne passe pas. Le cœur d'une femme est faible. La femme a besoin en permanence qu'on lui rappelle que je t'aime et que tu comptes pour moi. Il a rêvé d'Alik, même si vous l'écrivez sur un papier, vous le récitez régulièrement, ça remplit son cœur de joie. Maintenant que le mari est virulent, il prononce des paroles qui blessent le cœur de l'épouse, on n'a peut-être pas réalisé, mais c'est une première brèche. Et très souvent, les brèches ne se referment pas. Donc faire attention, même s'il y a des situations de conflit, il faut pas être sur la défensive. On voit, on constate, ça c'est par expérience. Il y a des fois qu'on a des repas avec plein de gens, on voit l'homme et la femme qui parlent, il y a un qui a fait une remarque, l'autre qui dit oui, mais c'est comme si il a du répondant. Il veut trouver la réplique pour qu'il ait le dessus. Et le mari va essayer de répliquer. C'est pas comme ça qu'on construit une relation de couple. Donc toujours mesurer ses propos, même si on rencontre parfois des oppositions donc d'idées. Deuxième point essentiel, ne jamais se focaliser sur les défauts de son épouse. Et l'épouse ne doit jamais se focaliser sur les défauts de son mari. Parce que nous sommes en finalité des êtres humains, avec des qualités, mais aussi des défauts. Et rappeler de temps en temps, rappeler, on a besoin parfois de formuler les qualités de notre prochain. La femme doit parfois dire à son mari ce qui lui plaît en lui. Et l'époux, le mari, doit dire à sa femme également « Qu'est-ce qui me plaît chez toi ?» Les compliments, c'est quelque chose qui renforce le muhabba, qui renforce l'amour. Troisième nasihat, on en avait dit qu'il y avait neuf. Troisième nasihat, on essaie de manifester cet amour par des gestes du quotidien. On avait vu tout à l'heure comment le prophète alayhi salat wa salam mangeait avec son épouse. On a vu également lorsqu'il allait à la masjid. Également le prophète alayhi salat wa salam avait une manière d'interpeller son épouse. En parlant de Aïcha, il l'appelait par un diminutif. Ya Aïch, ya Humaira, ya Habibi. Habibi, ça veut dire, oh mon très cher, ma bien-aimée. D'accord? C'est-à-dire que même dans la façon de parler, dans la façon de s'interpeller, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est-à-dire quand on appelle notre épouse, c'est la première chose qu'elle va entendre. Ne l'appelez pas par son prénom. Faut pas qu'on crie, Fatima, viens. Non, on essaie de trouver un petit nom gâté. On essaie de varier. Ça, ça remplit les cœurs de joie. Dans la manière de s'interpeller également, notre prophète, alayhi salat wa salam, nous a montré l'exemple de notre prophète, alayhi salat wa salam, aider son épouse dans les tâches ménagères. Je développerai pas parce que j'arrive pas à développer les points que je mets pas en pratique. Donc, on passe au point suivant. Notre prophète, alayhi salat wa salam, donner du temps à ses épouses. Ça, c'est quelque chose dans lequel nous péchons énormément. Il y a beaucoup de maris, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont fatigués. Ou comme Irfan est en train de faire, en train de tweeter, en train d'envoyer des WhatsApp à ses amis. Et quand on arrive à la maison, on enchaîne WhatsApp, on tweet, on FB, et ainsi de suite. On vérifie ses statuts. Mais ça pose des problèmes. Ali, en plein Bayan, il suit son GSM. Mais c'est une maladie. Et c'est l'iPhone 6, ça. Mal'oun. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait une fois son épouse Aïcha, il avait raconté une histoire, si je ne me trompe pas, dans Sahih Bukhari. L'histoire était très 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 longue. Notre prophète l'a écouté du début jusqu'à la fin, sans jamais l'arrêter, sans jamais l'interpeller, regarde pas le Imran Sadar, sans jamais lui dire, mais elle est encore longue ton histoire, ou j'ai d'autres choses à faire. Ça, c'est une preuve de respect. Respecter sa femme, c'est respecter ce qu'elle représente, pas que la respecter physiquement, c'est respecter ce qu'elle apporte comme idée, son intelligence, c'est de ne pas l'interrompre quand elle parle. Tout ça, c'est le modèle prophétique que notre prophète alayhi salat wa salam nous a montré. Le conseil qu'on peut donner aux couples modernes, et que j'aimerais me le donner moi-même, que quelqu'un me le donne, quand on arrive à la maison, on éteint le GSM. On coupe le wifi, on se déconnecte du monde extérieur, on donne du temps à l'être humain qui est là, à la femme qui t'attend, et il serait ingrat et injuste de se laisser absorber par un monde virtuel. Quand on a un problème, c'est pas le monde virtuel qui va t'aider. C'est pas tes 1451 amis sur Facebook qui vont venir t'aider. Tu peux avoir 1450 amis, mais quand ta batterie est off, t'as plus un camarade. D'accord? La plus grande reconnaissance envers les parents, ensuite envers l'épouse. Donc, donner du temps à sa femme. Notre prophète, alayhi salat wa salam, subhanallah, à travers des gestes simples, ça on a parlé. Et quand il buvait, il prenait le même verre que son épouse, et il buvait, il posait sa bouche mubarak à la même endroit, au même endroit que Aïcha radiallahu anha mettait sa bouche. Et les savants disent qu'il est important, ça c'est les savants un peu plus modernes, pas forcément du monde religieux, il est important pour agrémenter la vie de couple, de casser la routine. Et c'est comme si qu'il y a des sujets un peu tabous, ça c'est plutôt chez les anciennes générations, d'accord? Mais les nouvelles générations ne doivent pas hésiter à sortir avec leur épouse. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on veut sortir avec sa femme avant le mariage. Avant le mariage, sortez avec lui. Mais quand il est marié, on ne va plus manger au restaurant. Ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus manger un samoussa, boire un milkshake ensemble. Ici, vous avez du LGM en plus, vous êtes béni d'Allah. Il a réalisé l'alik. Avant le mariage, nous sommes en chorbe ensemble. Et quand le mariage est fait, c'est comme si là que ça devient haram. Bilax. Casser la routine est extrêmement important. Faites en sorte que madame n'ait pas cuisiné 7 repas de midi et 7 dîners. C'est de l'esclavage quand même. C'est terrible. qu'il y ait des jours où on sort ensemble, on va manger. S'il y a des endroits où on peut manger sur place, alhamdoulilah. Si on peut aller passer une nuit dans un hôtel, et ainsi de suite, avec les points SFR, et ainsi de suite. Il faut le faire. Il faut casser la routine. Tout ça, ça reconstruit un couple. Le couple se détruit, il y a des fois, avec les événements, avec la routine. Ça s'effrite. Il faut le reconstruire. Même si on a 50 ans de mariage, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, extrêmement profitable. Parmi les derniers points, ça c'est avant-dernier à peu près, savoir profiter des moments de bonheur. Et ça c'est un point très important. Beaucoup de gens reconnaissent qu'on vit dans un monde compliqué, on est stressé, on a plein de choses à faire, mais vous savez, parfois il y a des trous d'air, il y a des moments où on se sent bien, il y a des moments où tout se passe bien, on est heureux, mais quand vous voyez que tout va bien, que madame est de bonne humeur, je suis de bonne humeur et tout va bien, et qu'on s'aime, on s'apprécie, enjoy. Profite de ce moment. Et quand il y a un moment de détente, ne revenez pas en arrière. Ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est plus valable pour les anciens couples que celui qui va s'unir ce soir. Il ne faut pas tirer les vieux dossiers. Oui, mais là où il est content, là où il sourit, on rappelle la deux semaines qu'il y a été chaud de moment là-bas, là, où t'es garde à moi de travers parce que votre frère était là, parce que t'es toute ta bonne tribu là, là où t'es causant machin avec moi, on reste poli, et là maintenant on sourit, et là maintenant on dit mon chéri, mon gâté, on va faire ça. Non, mais n'oublie pas. Tu construis, tu détruis. Tu détruis. On a un moment de détente. Il y a un moment de détente, prends-le, saisis-le. Les moments de détente de ce dunya, ce monde est compliqué, mes chers frères en islam, mes chères sœurs. On vit dans un monde très compliqué. On vit dans un monde stressant, où il y a beaucoup de méchanceté, il y a de la jalousie, il y a de la sorcellerie, il y a des mauvaises intentions, il y a plein de choses mauvaises. Mais il y a des fois où il y a une rahma qui descend, où tout va bien, on se sent bien, profitez. Et quand ça va bien, ne revenez pas sur les vieux dossiers. Et deuxième chose, quand ça va bien, ne vous projetez pas de l'avenir. Ne dites pas que oui, ben là ça va, mais demain il faut pas qu'on recommence. Ça va bien, en profiter, remercier Allah et demander à Allah d'apaiser nos cœurs tout le temps. Que chaque fois, que chaque jour, notre vie soit agrémentée de la même façon par des moments de bonheur. Dernier point, pour te faire plaisir, on zappe tout. On va au dernier point. Un couple qui sait communiquer, c'est un couple qui va avancer, Inch'Allah. Un couple qui ne communique pas lorsqu'il y a un conflit, parce qu'il faut être réaliste, les conflits, il y en aura. Dans tous les couples, il y en a. On peut être Ali Mufti comme on veut, il y a des conflits. Un couple qui ne sait pas communiquer, c'est un couple qui fera soit du surplace ou qui donnera l'impression d'avancer. Maintenant, si les deux conjoints ont vraiment une conscience religieuse très forte, ils vont tenir jusqu'au bout. Mais les cœurs ne seront pas contents. Quand le couple ne communique pas, c'est qu'on cumule des frustrations. Par exemple, j'ai dit une parole déplaisante à mon épouse. Et elle n'a pas la possibilité de s'exprimer, ou je ne lui laisse pas la possibilité de s'exprimer, et donc elle garde ça sur le cœur. C'est une très mauvaise chose. Maintenant, il y a deux façons de le faire. Soit elle va hurler, elle va vociférer, et donc je vais répondre, je vais répliquer, et ça va, on va aller au clash. C'est pas la bonne méthode. Mais l'autre extrême serait qu'elle reste silencieuse, qu'elle ne manifeste pas son mécontentement. Là aussi, c'est problématique. La solution est dans le dialogue. On doit être capable de parler, de se regarder dans les yeux et de discuter. Voilà, là, tu m'as dit telle chose. Honnêtement, c'est un truc qui me blesse. Je viens de telle famille. Chez nous, nos papas, maman avaient l'habitude de parler de telle façon avec nous. Même si on faisait des erreurs, des bêtises, c'était comme ça. J'ai pas l'habitude que quelqu'un me crie dessus. Ou que le mari dit, hein, mais tes enfants uniques et tout, mon moment toujours occupé à moi, toujours fait ci, tu fais ça. Tout d'un coup, là où rentres-tu moi, aux causes comme ça. C'est des trucs que je peux pas supporter longtemps. Il faut qu'on trouve une solution. Par le biais des échanges, de la communication, Inch'Allah, on va passer l'étape du sabar, on va atteindre le vrai muhabba, le vrai mawadda, qui va naître à partir du moment où le couple peut survivre dans toutes les situations de la vie. On va s'arrêter à là, et faire un dernier petit rappel, qu'on n'oublie jamais que le jour de Qiyama, lorsque chaque personne aura des comptes à rendre, on aura également des comptes à rendre sur notre couple. Parce que le mariage, c'est un ni'ma. C'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Hadith dans lequel, c'est un hadith qui est mursal, mais de degré bon, correct. Awwalu ma tus'alu anhu al-mar'a. La première chose à propos de laquelle l'épouse, la femme, sera questionnée yawm al-qiyama, le jour de qiyama, an salatiha. Ce sera à propos de ses prières. Thumma an ba'liha, kayfa fa'alat ilayh. Ensuite, à propos de son mari, comment a-t-elle agi avec son mari? Ça fait partie des questions que la femme aura à répondre devant Allah le jour de Qiyama, que chaque personne prenne conscience et prépare sa réponse. Et de la même façon, dans le Coran, Allah Azza wa Jal demande « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous convenablement envers elle. Et jusqu'à le hajj wada', le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam, a donné des conseils concernant la façon d'agir avec sa femme, ce qui est une preuve, c'est qu'une preuve par le biais du Coran et de la Sunna que bien agir envers son épouse, c'est un devoir du musulman et que l'homme aura à répondre à ce propos le jour de Qiyama. D'un hadith rapporté par Al-Bazzar, il est dit qu'Allah Rabbul Izza demandera à la personne khatabti fulana, que tu as demandé en mariage cette personne, je te l'ai accordé. Ça c'est le cas où une personne délaisse son épouse. فَزَوَّجْتُكَهَا وَتَرَكْتَهَا, je te l'ai donné en mariage et tu les as abandonnés. C'est un hadith rapporté par Bazzar qui prouve que le jour de Qiyama, l'homme aussi aura des comptes à rendre à propos de sa relation avec son épouse. Qu'Allah Rabbul Izza remplit vos cœurs de joie, de muhabba, de mawadda, de rahma, c'est-à-dire de compassion et de pitié mutuelle. C'est-à-dire, l'homme doit toujours faire en sorte que son épouse se sente bien, et l'épouse doit essayer de chercher toutes les solutions pour que son épouse se sente bien dans la maison. Ça c'est la rahma, ça c'est la mawada. Qu'Allah vous l'accorde, et qu'Allah Rabbul Izza fasse que jour après jour cet amour augmente, votre relation avec Allah augmente, votre dîn augmente, qu'Allah vous protège de tout ce qui est mauvais, des mauvais regards, de la méchanceté, de la jalousie des gens. Qu'Allah vous accorde la baraka, la bénédiction, que vous soyez la fraîcheur des yeux de vos parents, du côté du garçon, du côté de la femme également. Qu'Allah Rabbul Izzah vous accorde une descendance, des enfants qui seront eux aussi la fraîcheur de vos yeux, et que le jour de Qiyama, qu'Allah vous réunisse, vous fait accéder au paradis en même temps. Bighayri hisab wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.